Ding dong. Ding dong.
La bande passante.
La bande passante.
Sandrine Straram, Alain Pilot.
Il n'est pas vraiment celui qui provoque l'hystérie, mais la sympathie comme un vieil ami. Et pourtant, où qu'il se produise, les salles sont combles. Arrivé dans le paysage français avec son ex-groupe Téléphone dans les années 70, avec qui il assurera pas moins de 470 concerts et vendra 6 millions d'albums, aura déchaîné un tas d'adolescents sur Ça c'est vraiment toi, Fait divers, au New York avec toi. Jean-Louis Aubert nous est compté par Christian Eudelin. Bonsoir.
Bonsoir.
Christian Eudelin, vous êtes écrivain, journaliste. Ce n'est pas le premier livre sur la musique que vous publiez. Votre palette est riche. Elle va du rock au hard rock, voire métal. Le tout en anthologie, sans oublier les 100 albums cultes. Quel est pour vous le disque culte de Téléphone, puis celui d'Aubert?
Vous m'avez demandé un album, j'ai le droit de prendre un 45 tours, j'ai envie de dire.
Allez, on va
le
faire l'exception.
Dernier 45 tours de Téléphone. Voilà. Parce que c'est une page qui se tourne, c'est une
qui
transition. Et ben c'est horrible parce que je l'avais en tête tout à l'heure.
Le jour s'est levé.
Le jour s'est levé, pardon, j'ai un trou de mémoire. Parce que c'est la transition, le rock s'est fait... chanson rock, c'est fait musique un petit peu variette, c'est fait belle chanson. Et puis vous avez la séparation dans le groupe, quand vous regardez la vidéo, vous avez Jean-Louis qui est derrière le piano, les trois qui le regardent, et vous avez une page qui se tourne, qui peut être une histoire d'amour, mais c'est surtout l'histoire d'amour de Téléphone et du public, et dans le groupe Téléphone. Donc pour moi, c'est le disque le plus culte, le plus beau, le plus émouvant à chaque fois. Ouais, c'est celui que je préfère.
Et pour Robert ?
Et alors ça, aucune hésitation quand il a mis en musique les poèmes de Michel Houellebecq.
Jean-Louis Aubert intime, avec en sous-titre Portrait d'un enfant du rock et le titre de votre ouvrage qui va permettre de découvrir ou redécouvrir cette figure plus que marquante du rock français. Puis l'américano-soudanaise Al Sara et ses New Buttons étaient en concert au musée du Quai Branly à Paris pour la bande Rizlen Sedika. Nous compte ce doux moment, soyez les bienvenus dans votre maison et sa musique téléphonique à tous les étages. Plastic Rocker, Semolina, qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est la première formation. C'est la première formation dans laquelle les futurs membres de Téléphone vont jouer, sauf Louis Bertignac, pardon. En fait, ce que j'essaye de raconter dans mon livre sur Jean-Louis Aubert, et pourquoi j'ai pas fait un livre sur Téléphone mais sur Jean-Louis Aubert, c'est qu'il y a une vie avant et une vie après Téléphone. Et dans le cas de Téléphone, c'est extrêmement important parce que on a l'impression qu'ils sont venus un peu comme ça d'une génération spontanée. Mais non, il y a 3-4 années qui vont être des années de rencontres, d'essais infructueuses, et juste au moment où Téléphone va arriver le 12 novembre 1976 dans ce fameux premier concert. Et ils vont puiser dans l'énergie punk une sorte de renouveau du rock en le chantant en français. Mais c'est pas arrivé comme ça. Il y a plusieurs histoires. et dont l'une des histoires, c'est ce groupe qui s'appelle Semolina, qui était plutôt porté par Richard Kolinka, et en fait, dans lequel Jean-Louis Aubert va chanter, et il y a un 45 tours, c'est ça qui est incroyable, c'est que le disque est passé complètement inaperçu, et c'est 3 mois seulement avant le premier concert de Téléphone.
Téléphone, Jean-Louis Aubert, aujourd'hui dans la bande passante. Flipper, Téléphone en 1977, extrait de leur premier disque et en intro maison des fans qui sont que l'on entendait sur le documentaire de Jean-Marie Perrier. Combien de temps va-t-il leur falloir, Christian Adeline, pour créer l'engouement et d'où vient cet engouement?
J'ai envie de dire une heure, le temps du premier concert, c'est-à-dire que le premier concert le 12 novembre 1976 au centre américain, donc 14e arrondissement de Paris. Il ne s'appelle pas encore Téléphone, ils n'ont pas de nom, c'est un point d'interrogation sur l'affiche, etc.
D'exclamation, non ?
D'exclamation, j'ai toujours confondu, ouais, je ne l'ai pas en tête. Voilà. Et si, tout de suite, ils se disent, mais il se passe quelque chose, parce que le public est venu, parce qu'il est en attente d'un groupe de rock, parce que c'est comme ça que l'affichage a été fait. Et j'ai envie, pour répondre à ta question, tout de suite, quoi, ils disent, bah, il faut qu'on recommence. Et quelques semaines après, ils remplissent le Gibus. Et la folie, elle est immédiate. Et de fin 76, donc le Gibus est en décembre, jusqu'au mois de juin, le Bus Palladium, le premier 45 tours enregistré. Là, ils vont s'appeler Téléphone, ils vont multiplier les concerts dans les MJC essentiellement. Et le public qui répond présent dès la première heure.
À l'époque, il y a le groupe Bijoux aussi. Pourquoi Philippe Doga, le chanteur bassiste du groupe Bijoux, est-il aussi affirmatif, même 40 ans plus tard, en déclarant que si Téléphone chante en français, c'est à cause d'eux?
Il y a toujours eu une grande jalousie entre, très précisément, Doga, qui était l'un des deux chanteurs de Bijoux, parce que Vincent Palmer chantait, ouais, aussi un petit peu, il me semble. Il y a une grande jalousie parce que Bijoux n'a pas eu le succès. Téléphone a eu le succès. On oublie aujourd'hui que Téléphone, les disques qui sont sortis à l'époque, le premier album, vous en parliez, va sortir au mois de juillet 77, vend à 100 000, 200 000 en quelques mois. Bijoux n'a jamais eu aucun disque d'or sur les 4 ou 5 albums qu'ils ont sortis. Donc je pense qu'il y a beaucoup de jalousie.
L'Hexagone, c'est bien, mais il y a aussi Outre-Rhin.
Nous, au lieu de s'enfler comme des gros scarabées là en France, on va aller frapper dans les pays où on n'est pas connu, puis on va repartir à zéro.
Comme faire
deux prisons dans le monde, quoi, une de chaque côté. C'est bizarre. D'accord. Mais en tout cas, un mur, c'est bien humain. C'est ce qui... Quand t'es au pied du mur et que t'es avec ton corps d'homme, tu te dis, ben ouais, je suis d'un côté du mur. C'est bien d'accord. Significatif.
Dure limite version allemande, d'où la qualité du son. C'était Heinz Weinrein avec le groupe Téléphone. Et puis Jean-Louis Aubert qui parle de ce mur de Berlin en 1984 dans une émission qui s'appelait Le Magazine, qui était sur Antenne 2 à l'époque. Téléphone va tenter la carrière internationale. Que va-t-on en retenir, Christian Oedlin ?
Il faut déjà comprendre pourquoi ils veulent aller à l'international. C'est qu'au bout d'un moment, quand vous tournez une première fois, une deuxième fois, une dixième fois dans toutes les salles de France et que vous les remplissez, vous dites on va peut-être essayer de vendre à l'étranger. Et ça a marché. L'Allemagne est un très bon exemple. Ils ont tourné plusieurs fois en Allemagne, mais surtout ils ont rempli les salles avec des Allemands, pas avec des Français. En Italie aussi, ça a marché. C'est normal hein, que vous ayez des ambitions européennes et après, international, ils vont enregistrer des disques. Enfin, ils ne vont pas enregistrer des disques pour l'étranger, mais il y a des disques qui vont être adaptés pour le marché étranger. Et voilà, c'est un vieux fantasme français. Même Johnny Hallyday est allé chanter à Las Vegas. Bon, bah, Téléphone est allé chanter à New York, au Canada, en Allemagne, en Europe. Alors, ça marchera en Europe, pas trop aux États-Unis. Et le problème, pourquoi ? C'est parce qu'ils n'ont pas le temps de tout faire. Quand vous écumez les salles françaises, vous êtes épuisé parce qu'ils n'ont cessé d'enregistrer, de tourner. Bon, ils tournent un petit peu en Europe. Quand je dis un petit peu, ils font l'Allemagne, la Suède, l'Italie et ces pays-là. Et ils essayent d'attaquer le marché américain. Mais là, il faut du temps. Il faudrait 2 ans pour attaquer le marché américain. Donc ça ne marche pas aux États-Unis.
Restons à l'étranger. Si Louis Bertignac, le guitariste de Téléphone, va un moment s'intéresser aux musiques gnawa, est-ce que Jean-Louis Aubert, lui aussi, va avoir envie de dériver vers un autre genre musical ?
Alors, un autre genre musical, si vous dites, quand vous prenez sa carrière solo, il va aller sur des ambiances un petit peu électro, oui.
On en parlera tout à l'heure.
Mais oui. Non, j'ai envie de dire non. Il n'a pas cette curiosité. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il reste dans une sorte de rock français, c'est-à-dire dans une tradition qui est déjà énorme. Hein, parce que on a oublié de dire le principal, c'est l'un des premiers qui va avoir un style très direct dans ses paroles. Le meilleur exemple, le premier album, vous avez pris la chanson Flipper, mais la chanson Métro était beaucoup plus explicative parce qu'en concert en 77, Jean-Louis Aubert au micro disait au public « Vous êtes venus comment ? En métro ? Nous aussi ?» Et ils enchaînaient sur Métro, c'est trop. Il y avait une sorte de spontanéité dans les paroles et ça correspondait à un public, à une attente. Mais Jean-Louis Aubert n'est jamais allé vers les musiques arabes ou orientales ou des trucs comme ça, quoi.
Ça sera plus à anglo-saxon, parce qu'au départ, ils font des reprises quand même. Au départ, lui, il fait des reprises avec ses musiciens.
Vous parlez de Jean-Louis Aubert, il fait des reprises.
Des reprises de Rolling Stones.
Oui, quand il est gamin, mais pour se faire la main, bien sûr, oui. Mais il y a peu de documents sur cette époque. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'enregistrement de Jean-Louis Aubert quand il a 17 ans ou 18 ans en train de faire les Rolling Stones. Ça n'existe pas vraiment.
Elle propose de partir maintenant à la fois en Nubie, à Paris et à Brooklyn. Al-Sara, la nouvelle étoile de la pop nubienne, nous revient avec un bel opus, Manara. La bande s'est déplacée à l'un de ses concerts au Quai Branly à Paris. Bonsoir Izen Selika.
Bonsoir Alain. Oui, au Quai Branly, la chanteuse charismatique et ses acolytes nous ont entraînés dans un autre monde où les sonorités est-africaines et arabes nous ont fait voyager et même danser. Ici le oud a toute sa place. Sarah est une jeune femme d'origine soudanaise qui vit depuis une vingtaine d'années à Brooklyn. Auteure et compositrice, qu'a-t-elle voulu faire passer à travers ce projet musical ? Elle nous l'explique juste après son concert.
Cette nouvelle aventure musicale consiste à exprimer l'idée du voyage, l'idée du mouvement vers quelque chose, même si vous n'êtes pas encore arrivé. Le premier album, Silt, avait pour but de poser les bases, de montrer d'où nous venions, alors que Manara évoque le trajet, là où nous nous dirigeons. Ce sont les sons du voyage comme des chapitres sonores tout au long du trajet. D'Al-Bagar à Al-Fourag, ce sont tous les sons, les sensations, les humeurs que vous pourriez ressentir. C'est un peu comme la bande originale de votre voyage.
Une bande sonore telle une bande passante sur nos ondes, mais cet album Manara est né au Maroc à Assila, sans doute une source d'inspiration ?
Assila est un village près de la mer au Maroc. Cette retraite créative a créé une véritable osmose entre les membres du groupe. Al-Sara a énormément aimé ce village, où elle y a trouvé des grandes similitudes entre ses racines soudanaises et le Maroc. Elle lui a même dédié une chanson.
Cet album, on ressent vraiment l'envie d'Al-Sara de révéler son patrimoine culturel.
Oui, Alain, et c'est exactement ça. Mais sa démarche est vraiment personnelle. Elle s'inspire de l'âge d'or de la pop des années 70 soudanaise et est habitée par l'effervescence new-yorkaise.
Absolutely, it is a new generation. I'm a child of the diaspora. I was born in Sudan and then I moved to Yemen and then I moved again to the States.
Absolument, je suis un enfant de la diaspora. Je suis né au Soudan, puis je suis parti au Yémen, ensuite aux États-Unis, à Brooklyn. J'y suis très à l'aise. Je me sens comme à la maison et en même temps, je me sens étrangère. Quand je rentre au Soudan, je ne suis plus aussi à l'aise. Mais l'idée n'est pas de dévoiler ma culture aux autres, il s'agit plutôt de conserver ma culture. Je n'ai pas besoin de m'habiller comme on le ferait dans ma culture, je suis ma culture. Donc je ne me pose pas de questions, je m'habille comme je m'habille.
And so I've never felt the need to wear it. I wear what I like to wear.
Cette jeune femme a plusieurs cordes à son arc, elle est aussi ethnomusicologue.
Ses études lui ont permis de découvrir comment la musique est perçue par les différents peuples, une richesse qui l'aide dans son exploration musicale.
Well, I studied music. I wanted to become a
J'ai commencé la musique au lycée. Je faisais beaucoup de musique, je chantais tout le temps. Je ne savais pas si je voulais devenir une professionnelle. Je n'étais pas sûre, mais j'étais passionnée et je voulais faire quelque chose en rapport avec la musique. En tant qu'immigrée, je ne pouvais pas dire à mes parents que je voulais devenir musicienne. Alors je leur ai dit que j'allais devenir ethnomusicologue, comme ça j'aurais un travail. C'était surtout l'occasion d'étudier la musique non occidentale et ça m'a été très utile, surtout pour constater comment les Blancs considèrent les autres musiques. Ça m'a donné une bonne leçon. Cela m'a aidé à entrevoir comment ma musique pouvait être perçue. C'est important de jouer devant un public. J'adore être sur scène et partager la musique. Mais composer, c'est autre chose. C'est beaucoup plus intime et j'avais besoin de savoir comment les autres pouvaient me percevoir pour mieux me protéger.
So for me, it was important to learn how others will look at me so I can learn to defend myself.
Une artiste brillante qui appelle au voyage et partage des mélodies de toute beauté. On termine cette rencontre avec son titre Yawatan, une méditation sur notre humanité. Vous pourrez découvrir Al-Sara de New Batons le 11 octobre 2016 au Flow à Paris. Merci Rizlaine, à bientôt.
Merci Alain.
Hello, this is Al-Sara and this is La Bande Passante. Please join us October 11th at Flow for our album release party here in Paris. الجزع تشقق وتكسر وين يا وطن وين يا زمن طبا من سنين تتمطى وتفلك في جبينك بالألم وين يا وطن وين يا زمن طبا من سنين تتمطى
Al-Sara de New Batons, pourquoi pas imaginer un duo avec Jean-Louis Aubert, un de ces quatre, on ne sait jamais. À suivre, juste après avoir fait le tour du monde de l'actualité en 3 minutes, un Jean-Louis Aubert toujours, voire encore plus intime. À tout de suite sur RFI, dans la bande passante.
La bande passante.
Musique.
Sandrine Straram Alain Pilot.
Retour de la bande passante sur RFI en compagnie de cet artiste français inconditionnel des Who, de Barbara, des Rolling Stones, de Michel Houellebecq ou bien de Bowie. Chanteur, auteur, compositeur dont le nom a été donné à une école de sa ville natale Nantua. Son nom est Aubert, Jean-Louis Aubert. Toujours Christian Hudeline pour nous en parler. Rebonsoir.
Rebonsoir.
Je rappelle que vous êtes toujours journaliste, écrivain et je précise frère de Patrick Hudeline, créateur du groupe Asphalt Jungle à la fin des années 70, se positionnant comme l'un des précurseurs du punk français, époque où Téléphone sévissait aussi. Quel sera le titre le plus punk, entre guillemets, d'Aubert, avec ou sans téléphone pour vous?
Un truc comme Hygiaphone, c'est quand même punk, hein, parce que parler dans l'Hygiaphone, c'était une image, hein, c'était l'image de cette incapacité de l'individu lambda, pardon, à parler à un fonctionnaire, parce qu'il y a cet Hygiaphone qui les sépare. Donc je trouve ça assez punk, parce qu'on sent que c'est très énervé aussi dans la forme. C'est pas que les paroles, aussi il y a des grosses attaques de guitare, et on est en 77, quoi.
Jean-Louis Aubert intime, avec en sous-titre Portrait d'un enfant du rock, c'est le livre que vous nous présentez, l'occasion pour nous de nous arrêter sur les moments forts du parcours de ce Mick Jagger français, même si c'est un peu réducteur, qui nous incitait à cracher notre venin, ou nous mettait dans les mains la bombe humaine en 1979. Soyez de nouveau les bienvenus dans votre maison et sa musique honorifique à tous les étages.
Quand on pense qu'il y a des types qui sont sur scène et qui essaient de traduire ce que veulent dire tous ces types dans l'assistance, on est obligé de penser, sinon qu'on est fan de cette musique parce qu'il faut longtemps pour s'y convertir, mais que quand même dans les concerts de rock, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et qu'il serait très dangereux et très, très, très dommage pour les gens de ma génération de ne pas voir. Mais si on se place vraiment dans la peau du gosse, et Jean-Louis était capable de me convaincre, de me mettre dans sa peau, à ce moment-là, j'avais mon deuxième rôle. Il faut bien dire qu'à ce moment-là, j'étais un peu son complice. J'étais d'abord son ennemi dans les débuts de conversation, et après, je ne vous dirais pas que je l'envie pas un peu en ce moment, mais si.
Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te paradiner demain sera pas. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à deux balles, les seuls et là ils sont bien au pied des tours infernales. Malfrats, les quinquas, les gros banquiers en cavale, les stéo-radios matinales. Je veux danser, je veux danser sur les braises. Il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les deux pieds dans la glaise.
Demain sera parfait sur l'album Rock Éclair en 2010, marqué par l'absence des êtres aimés, mais musicalement ça respire la joie, écrivez-vous, et c'est vrai. Et au tout début, les mots touchants du père de Jean-Louis Aubert, Yves, que nous avons ajouté, père aujourd'hui disparu, qui parlait d'ennemis, de complices à la fois. Quels étaient leurs rapports?
Alors, je raconte un petit peu dans mon bouquin, c'est que quand Jean-Louis Aubert, à 16 ou 17 ans, dit à ses parents « je vais faire de la musique », vous imaginez la tête des parents. Pas très joyeuse. Jean-Louis, en plus, n'est pas un très bon élève à cette époque-là. Ça va être les années un petit peu compliquées, on va dire, des rapports avec les parents, parce que c'est pas un métier, même en 72-73, d'être musicien. Mais après, 10-15 ans après, quand le succès est arrivé, forcément une grande fierté, parce qu'on découvrira un petit peu, mais les fans le savent déjà, c'est que le papa était conteur dans son village, c'est quelqu'un qui aimait raconter des histoires et qui a choisi une vie de fonctionnaire sécurité de l'emploi parce qu'il avait une famille, mais qui aurait adoré embrasser cette carrière d'artiste.
Comment Jean-Louis Aubert va aborder l'après-téléphone, donc dans son aventure solo ou presque, puisque Richard Kolinka, le batteur, le rejoint, c'est Aubert & Co au départ. Et puis de l'autre, il y a Bertignac avec Corinne, avec le groupe Les Visiteurs. Comment il aborde cet après-téléphone?
Alors, je pense que c'était inéluctable, la fin. C'est pas... Regardez les Beatles, hein, même les Beatles se sont séparés. Donc un groupe qui a le succès, qui a fait le tour de tout, qui a vendu des millions de disques, hein, de leur vivant, on va dire, au bout d'un moment, vous tournez un peu en rond, vous faites un nouvel album, la tournée des popotes, les télés, la tournée des concerts, vous remplissez. Je pense que c'est une insatisfaction qui s'installe, en fait. Donc moi, je pense qu'il a eu raison et il en a eu marre. Il a voulu casser son jouet, comme dit le public. Parce que, par contre, le public était furieux. Il a cassé le jouet, il a cassé le groupe. La première tournée de Jean-Louis Aubert solo était très très violente dans le public. Il n'y avait pas grand monde. Et puis ceux qui venaient, c'était plutôt pour le huer que pour l'encourager. Mais si vous voulez avancer et faire d'autres choses intéressantes et continuer à créer, ce que Jean-Louis a toujours fait, c'était la seule solution.
Jean-Louis Aubert, bleu, blanc, vert, plâtre et ciment.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez. Car c'est fini. C'est fini.
Pas facile de résumer la carrière de Jean-Louis Aubert et de Téléphone en moins de 47 minutes. Jean-Louis Aubert, une rupture amoureuse, voilà c'est fini. 1987, tiré de Bleu, Blanc, Vert. Avec Gage Paty, où on peut s'aimer. Deuxième album en 89, Les Plages sur plâtre et ciment. Premier disque solo et Entends-moi, qui fait partie de H. Dans cet après-téléphone, quelle direction musicale prend Aubert, qui efface toute référence? Et c'est plutôt bien d'ailleurs, mais ça part un peu dans tous les sens par moments. Hein.
Par goût, je retiendrai que cette chanson magnifique, voilà c'est fini, c'est-à-dire que ce mélange de chansons et cette école qui vient du rock, parce que l'écriture elle est rock, Voilà, c'est fini. Évidemment, c'est une relation amoureuse, mais c'est pas que une relation amoureuse. Quand Thierry Ardisson va arrêter son émission sur France 2, il va inviter Jean-Louis. Voilà, c'est fini. Elle est tellement belle, la phrase, tellement évidente. C'est pas un slogan, mais c'est cinglant, quoi. C'est très très dur d'écrire des chansons fluides. Je vous ai vu taper du pied pendant la chanson, c'est-à-dire qu'on l'entend même pour la première fois, on la retient, on a envie de la chantonner. On a mis un exemple, un petit extrait de Bleu Blanc Vert. On a l'autre aspect de Jean-Louis, le côté un petit peu expérimental. C'est une palette riche. Il va pas faire que des belles chansons. Il va aussi garder un petit peu un côté expérimental sur l'album Stockholm. Il va aller sur l'électro. Voilà, c'est ça, Jean-Louis Aubert. Il s'aventure de temps en temps dans des territoires un peu inconnus.
À ce jour, quelles sont ses plus belles rencontres?
C'est belle, bah, ça reste forcément la rencontre avec Louis Bertignac, parce qu'elle va dessiner, elle va dessiner toute sa vie, forcément, il ne peut pas vous dire autre chose. On n'a pas du tout évoqué un ami d'enfance qui s'appelait Olive, qui était chanteur de Lily Drop. C'est une rencontre extraordinaire pour Jean-Louis, j'imagine, mais il y en a plein d'autres, et je pense que ce n'est pas terminé. Surtout, ce n'est pas quelqu'un du tout qui est dans le passé quand vous le rencontrez. La rencontre avec Michel Houellebecq, elle n'est pas si vieille, parce que Jean-Louis l'a raconté, alors on va en parler, j'anticipe, oui. Mais il a lu un livre et puis il y aura une rencontre après.
Il y a aussi Barbara.
J'allais la voir assez régulièrement, tous les 15 jours, et les moments étaient tellement précieux et à un tel niveau que quelquefois c'était annulé quand elle n'était pas prête, ou quelquefois moi, mais surtout elle. Je pense que 3 jours avant, on se conditionnait, c'était très
intense. Mais qu'est-ce que vous... Enfin, je ne voudrais pas être indiscrète, mais vous faisiez quoi ensemble? Vous parliez, vous...
On chahutait. Ouais. Il y avait de la séduction, homme-femme, il y avait beaucoup d'enfance, et je crois que c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés. La première fois que j'ai sonné chez elle, je crois que 10 minutes après qu'elle m'ait ouvert, on était... à 4 pattes sous son piano, en train de découper des bandes magnétiques au ciseau et d'essayer de les recoller et de mettre en route un vieux Revox. Donc, il y avait un côté... on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Va, ce monde, je te le donne. Va, jamais n'abandonne. Vrai, qu'il n'est pas à l'image des rêves d'un enfant de ton âge. Je sais, le monde a des accents. Souvent, il nous montre les dents.
Aimer, si tu l'aimes comme je l'aime, il faudra bien que tu l'aimes.
Tu en es le vivant.
Le monde est un espoir, l'espoir jamais ne l'abandonne. Oui, le monde est notre histoire, de matin clair et de nuit noire.
Je sais que le monde a des armes qui parfois nous désarment.
Mais il t'aimera comme tu l'as. Bien que tu l'aimes,
la vie est un poème
que tu écris à toi-même.
Jean-Louis Aubert évoquant Barbara chez nos confrères de France Inter, suivi de Vivant Poème, texte de Barbara, convié par Jean-Louis Aubert. Elle écrira aussi Le jour se lève encore. Aucune allusion à Le jour s'est levé, précisez-vous dans votre ouvrage, Christian Deligne, sur l'album Stockholm, enregistré en Suède. Qu'est-ce qui séduit Barbara chez Jean-Louis Aubert, d'après vous ?
La jeunesse, le talent. J'irais quand même le talent, parce que Jean-Louis Aubert, quand il rencontre Barbara, a eu tout ce passé de téléphone. Il a commencé à enregistrer ses disques solo. Je pense que c'est le talent. Et puis la gentillesse du mec, son sourire. Il a un sourire éclatant quand vous le rencontrez en vrai. Ce genre de choses.
Qu'est-ce qui va faire la patte des textes d'Aubert?
Qu'est-ce qui fait la patte?
Ouais, son tutoiement.
Oui. C'est un style assez direct. C'est pas de la poésie, parce que le gros problème de la chanson française, c'est quand même, on prend souvent des images pour raconter les choses, alors que Jean-Louis a un style direct.
Au fait, Jean-Louis, qu'est-ce que la poésie ?
Bah, c'est un peu des mots aussi grands que amour, art, par exemple. C'est des mots très très grands.
Mais ils existent.
Culture. Bon. C'est des mots qui, dès qu'on les prononce, tuent leur contenu. Et de mettre un mot sur un rêve, c'est de la poésie. Et de faire une blague de comptoir aussi, pas pour moi. Là, il y a quelque chose aussi qui nous échappe, qui est inconscient. Et quelquefois, en deux phrases qui giflent l'une l'autre, on peut dire des choses antagonistes qui résument assez bien tout notre état d'âme ou notre pensée sur la vie, la mort, l'amour. Et voilà, pour moi, c'est ça la poésie. Donc elle galope, elle court. Cet après-midi, je dis à un gars qui était assis dans la rue, bon courage. Il dit non, courage, il y a coup et il y a rage. Et si je suis dans la rue, c'est à cause de ça. Et voilà, j'ai dit, ben, est-ce que je dois l'appeler poète ou pas? Oui, voilà, c'est un poète.
Aubert, dans la bande sur RFI, la poésie selon Jean-Louis, qui par exemple s'inspirera du poème Le Rebelle de Baudelaire, rappelez-vous, Christian Edeline, pour sa chanson Tel est l'amour. Quelle est l'évolution de l'écriture d'Aubert de Téléphone à aujourd'hui?
Au début, on disait que son écriture était assez adolescente, c'est-à-dire que quelqu'un de 16, 18 ans, au sortir de l'école, aurait pu l'écrire. Et il y a une grande fluidité aujourd'hui. Voilà, une phrase comme voilà, c'est fini, il l'aurait jamais écrite 25 ans en amont. C'était un petit peu plus rebelle, un petit peu plus hargneux, peut-être, dans les termes. Et assez, un petit peu scolaire dans le premier album de Téléphone, Flipper, on est une boule de Flipper. Bon, voilà, c'est un petit peu scolaire quand même. Et aujourd'hui, c'est d'une grande fluidité. Pas tout, parce qu'il faut toujours travailler, hein, mais 80% des textes, je dirais, c'est très très beau, quoi.
On écoutait tout à l'heure un extrait de l'album Stockholm. Que va-t-il chercher en enregistrant en Suède à l'époque, en 1997?
Quelque chose d'autre, un ras-le-bol de la scène française. C'est forcément, il faut toujours nourrir la bête, hein, quand vous écrivez des disques et quand vous écrivez des chansons. Pourquoi pas la Suède? C'était pas si loin. Je pense qu'il n'a pas osé aller aux États-Unis, ou c'était peut-être trop évident quand vous venez du rock. C'est pas Eddie Mitchell ou Johnny Hallyday non plus, ni Dick Rivers. Donc il a cherché un autre pays, et la Suède, la scène musicale était quand même est intéressante. Il n'y a pas que ABBA, il y a aussi tous les jazzmen qui y sont allés, entre autres. Et puis là, l'électro. Puis là, rencontrer une personne pour y aller aussi. C'était un DJ, c'était quelqu'un qui maniait cette nouvelle musique, parce que c'était il y a 20 ans. On est aujourd'hui en 2016, mais c'était il y a presque 20 ans. Donc les musiques électroniques, elles n'étaient pas encore aussi intégrées aujourd'hui dans nos oreilles, dans les disques, quoi. Donc, mais c'est pas un succès, ce disque-là.
Non, ça n'a pas.
Il n'y a que les fans qui le connaissent. Ça n'a pas tellement marché, on va dire.
Jean-Louis Aubert, raconté par Christian Edeline aujourd'hui sur RFI.
Il n'y a pas d'amour, pas vraiment pas assez. Nous vivons sans secours, nous mourons délaissés. L'appel à la pitié résonne dans le vide. Nos corps sont estropiés, mais nos chairs sont avides. Disparues les promesses d'un corps adolescent. Nous entrons en vieillesse où rien ne nous attend, que la mémoire vaine de nos jours disparus, un soubresaut de haine et le désespoir nu. Ma vie, ma très ancienne, mon premier vœu mal refermé, mon premier amour infirmé, il a fallu que tu reviennes. Il a fallu que je connaisse ce que la vie a de meilleur, quand deux corps jouent de leur bonheur et sans fin s'unissent et renaissent. Entrer en dépendance entière, je sais le tremblement de l'être, l'hésitation à disparaître, le soleil qui frappe en lisière. Et l'amour où tout est facile, où tout est donné dans l'instant, il existe au milieu du temps, il existe au milieu du temps. La possibilité d'une île.
Il se passe un truc assez curieux aussi, c'est que il a un visage assez fragile et on dirait qu'il est qu'il y a quelque chose qui va pas, mais son corps est assez vigoureux. Et donc ça, c'est assez curieux, c'est une découverte que j'ai faite en étant contre lui.
2014, la possibilité d'une île, Aubert dans la bande à l'époque sur RFI, évoquant Houellebecq d'une manière assez étonnante, non, Christian Edeline?
Il est tombé amoureux, hein, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. C'est-à-dire qu'il a acheté un livre un jour de Michel Houellebecq, un livre de poésie, Et il est tombé amoureux, il a tout de suite pris sa guitare, il ne voyait pas d'autre possibilité que de les mettre en musique. Et c'est une très belle rencontre, c'est-à-dire que ça débouchera donc sur un disque, et puis sur quelques concerts où Michel Houellebecq apparaîtra. Je me souviens au théâtre des Halles, non, du Châtelet, pardon. C'est un très très beau disque et on s'est rendu compte qu'il y avait une musicalité dans les écrits de Michel Houellebecq. Alors, la différence des deux écritures, c'est que Jean-Louis m'avait dit quand Michel Houellebecq parle de la nature, il va dire la nature est malade, il va employer des adjectifs qui n'ont absolument rien à voir avec l'objet. Ça, c'est une grande chose de Michel Houellebecq. Cet album-là est magnifique, quoi.
Ce qui est amusant, c'est que dans votre livre, on comprend aussi que Houellebecq est un fan de la première heure parce qu'il assiste au premier concert de Téléphone. Oui.
Et Michel Houellebecq est un fan de rock. Mmh. Au concert des Insus à l'Olympia, il dansait comme
un fou. Il ne se connaissait pas à l'époque, voilà. Quand il va les voir.
Non, mais et 30 ans avant, il était dans le public parce qu'il est de cette génération-là. C'est-à-dire qu'il a une vingtaine d'années quand Téléphone explose et il est dans le public et il danse. Et voilà, il a toujours aimé la musique, hein, Michel Houellebecq. Le rock et tout ça.
À quel moment va-t-on croire que Téléphone va se reformer ?
Alors, c'est une longue histoire, hein. C'est une histoire qui se concrétise presque pour l'année 2000, on va dire. Il y a des réunions, on y croit, et puis il y a une sorte de clash. Si vous me posez la question pourquoi ça n'a pas marché, je pense que il y a d'un côté une fille, il y a d'un côté une fille, et puis d'un autre côté trois garçons. Plus, moi, je dirais
la fille, c'est Corinne Mariano.
Voilà, Corinne Mariano. Les trois garçons, donc Louis Bertignac, Richard Colinca, Jean-Louis Aubert, mais aussi le manager, François Ravard. On va dire quand même qu'il ne faut jamais oublier que Téléphone, c'est cinq personnes. Et une fille n'a peut-être pas les mêmes attentes que les garçons. Les garçons étaient quand même là pour s'amuser avec Téléphone. Ils en profitaient, ils ont vachement bossé. Mais Corinne, elle avait un côté un petit peu plus installé. Il faut changer le monde, la révolution. Alors, 25 ans après... ils sont encore là pour s'amuser. Corinne, elle a peut-être d'autres envies. Je pense que ça, c'est un premier clash. Le deuxième clash, c'est le fait que les 3-4 garçons, ils ont fait plein de choses. Donc Jean-Louis Aubert, sa carrière solo, Bertignac aussi, Colinca, il a joué avec tout le monde. François Ravard s'est occupé d'Erita Mizuko et de Marianne Cessoul. Mais Corinne Mariano a fait un album solo qui n'a pas du tout marché. Donc elle qui pense retrouver ses amis et qu'on partage tout à quatre parce qu'on est égaux, non. Et il y a un premier clash en 2000 quand Jean-Louis dit tu mettras une robe ou tu essaieras de t'habiller un petit peu, de te maquiller. Ouais, c'est pas pour ça que j'ai envie de faire le groupe. Et il n'y aura jamais de retrouvailles. Mais attention, parce qu'il pourrait très bien nous sortir du chapeau comme ça un jour. Tiens, Corinne va venir faire un morceau avec un rappel. On ne sait jamais, hein, on ne sait jamais avec eux.
Pour l'instant, sans Corinne, ça s'appelle Les Insus.
J'avais un ami.
Passage de Au cœur de la nuit, Les Insus au cœur de la ville de Lille en 20 secondes. Comment font-ils pour encore faire bouger les gens sur des morceaux qui ont près de 40 ans, Christian Hedlin ?
C'est le seul groupe de rock français qui s'est reformé, qui avait eu du succès à l'époque et qui s'est reformé et qui les gens ont envie de les voir.
Voici maintenant celui qui passe par la bande demain. Oh,
Ponjo, ponjo, le Congolais Jupiter Okwes, ça vous plaît ?
Oui, beaucoup.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Jean-Louis Aubert intime, portrait d'un enfant du rock. Qui est l'enfant de Jean-Louis Aubert en 2016, Christian Hedlin ?
J'ai envie de dire Raphaël, parce que c'est celui qui a pris le meilleur relais. Qui... Et puis il y a eu ce duo, une sorte de adoubement avec un duo.
Un duo qui s'appelle Sur la route.
Voilà. Et Raphaël a à peu près l'âge pour être le fils de Jean-Louis Aubert. Donc voilà, je ne me mouille pas.
Vous irez voir les insultes ?
Ah, mais j'ai déjà vu. Ouais. J'ai déjà vu. Donc,
c'est bien.
Bah, c'est très très bien. Vous dansez, vous connaissez toutes les chansons. Vous dansez, voilà. Et puis les jeunes. Moi, j'étais à l'Olympia. Donc le public est assez âgé, quand même, plutôt 40-50 ans. Mais j'ai vu le dernier morceau, ça c'est vraiment toi. Les serveurs de l'Olympia, je fais un gros rapporteur là. Ils ont quitté leur poste, ils sont allés avec leur iPhone filmer et la réflexion c'était mais c'est eux qui chantent ça ? C'était assez incroyable comme scène.
Ça vous le racontez dans le bouquin aussi. Merci infiniment Christian Hedlin.
Bah merci.
Jean-Louis Aubert intime, 354 pages est publié chez Prisma. Fin de cette bande qui repasse donc demain en compagnie de Jupiter Okwes. Merci à Éléonore Santoro, Eugénie Ducré et Pierre Vallée. Restez en toute intimité dans la bande via musique.rfi.fr ou les réseaux sociaux. Dans moins d'une minute, le journal. Salut.
Priorité santé.